Formation biblique de disciples, cours numéro 5, les fondements de la foi. Relation Dieu-homme. Dans le cœur et le plan de Dieu avec les hommes, il a toujours voulu vivre une relation permanente d'amour avec eux. Son grand désir est de se révéler à eux pour qu'ils grandissent dans une connaissance relationnelle avec lui. De tout temps, Dieu veut se révéler aux hommes. Première partie. La révélation. Petit 1. La révélation à des hommes en particulier. L'Écriture nous atteste que Dieu, dans sa grâce, s'est adressé directement à des hommes pour se faire connaître à eux. Adam, Caïn, Noé, Abraham, Isaac, Jacob ont entendu la voix de Dieu qui leur communiquait sa parole. Moïse, surtout, a reçu de nombreuses révélations divines. Dans Exode 33, verset 11, on peut lire: L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Petit 2. La révélation au peuple. Au Sinaï, c'est le peuple entier qui a pu entendre la voix de l'Éternel. Mais à certaines époques, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. On le lit dans 1 Samuel 3, verset 1. Mais elles n'étaient pas totalement muettes. De Samuel à Malachie, nous avons dans les Écritures une succession presque ininterrompue de prophètes qui ont marqué l'histoire d'Israël. Amos va jusqu'à dire, dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Petit 3, la manière de révéler. Ainsi, le peuple de Dieu a bénéficié de révélations spéciales et directes, bien plus précises que la révélation générale qui apparaît. Dans la nature, dans Actes 14, versets 16 à 17, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dans Romains 1, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Psaume 19, verset 1 à 4, au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, mais dont le son ne soit point entendu. Dans la conscience, Romains 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Dans l'histoire profane, avec les jugements de Dieu parmi les nations, il faut noter que Dieu s'est fait connaître aux Israélites non pas en une fois, mais tout au long des siècles. La révélation divine s'insère dans la suite des événements au gré des occasions qui se présentent et elle a été progressive. Malgré toutes les interventions divines, les hommes de l'ancienne alliance soupiraient après une venue personnelle du Seigneur, comme le Seigneur le leur avait promis. Dans Job 23, verset 3, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, disait Job. Éternel, abaisse tes cieux et descends, suppliait David dans le psaume 144, verset 5. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» soupirait Ésaïe dans Ésaïe 63, verset 19. Petit 4, la révélation par Christ. Leur cri fut exaucé lorsque Jésus est né à Bethléem. Jésus était vraiment avec nous. Il a pleinement manifesté le nom du Père aux hommes. Ceux qui le voyaient, voyaient le Père. Jésus a transmis à ses disciples tout ce qu'il avait appris du Père, mais quelque chose devait être ajouté à la révélation. C'est à la croix que la manifestation du Fils de l'homme culmine car Dieu prouve la totalité de son amour en nous donnant son Fils à la croix et en le ressuscitant. Jésus est déclaré Fils de Dieu, dans Romains 1, verset 4. Paul n'a pas reçu l'évangile par l'intermédiaire d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, dans Galates 1, verset 12. Le dernier livre du Nouveau Testament a pour titre Révélation, c'est-à-dire Apocalypsis en grec, et ce titre figure dans le texte lui-même. On le voit dans Apocalypse 1, verset 1, Révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas été donné a posteriori, mais apparaît dans le texte original en grec. En nous parlant par le Fils en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a tout révélé à travers lui. C'est pourquoi, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 8. Petit 5. La révélation par le Saint-Esprit. Ainsi, depuis la Pentecôte, les disciples sont éclairés par le Saint-Esprit. La révélation totale que le Fils est venu apporter au monde par son incarnation devait donc être éclairée par l'Esprit Saint. Petit 6. La révélation de la doctrine chrétienne contenue dans la Bible et après la constitution de la Bible. En ce qui concerne la doctrine chrétienne, la révélation est close depuis la mort du dernier apôtre, comme le dit la Confession de La Rochelle. C'est-à-dire, c'est la Confession de foi des Églises réformées en France de 1559. Nous croyons que cette Écriture sainte contient parfaitement la volonté divine et que tout ce que l'homme doit croire pour être sauvé y est suffisamment enseigné. Car puisque toute la manière du service que Dieu requiert de nous y est très longuement décrite, les hommes ne doivent enseigner autrement que ce qui nous a déjà été enseigné par les saintes Écritures. Partant de là, nous rejetons de tout notre cœur tout ce qui ne s'accorde pas à cette règle infaillible. Il y a certes une révélation de Jésus-Christ que nous attendons, celle qui se produira quand il reviendra du ciel. Alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Dans 1 Corinthiens 13, verset 12, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Pour le moment, nous n'avons qu'à prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. C'est dans 2 Pierre 1, verset 19. Deuxième partie, le Dieu trinitaire. Le mot Trinité n'est pas employé dans la Bible. Il apparaît au IIe siècle. Il apparaît sous sa forme grecque triade dans les écrits de Théophile d'Antioche, puis sous la forme latine Trinité sous la plume de Tertullien. Ce mot a été ensuite repris au Concile de Nicée en 325. On entend par là qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, égales entre elles, distinctes et inséparables. Si le mot est absent de l'écriture, la vérité qu'il exprime y est clairement enseignée. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous les trois appelés Dieu dans l'écriture. Alors, concernant Dieu le Père, dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Concernant Dieu le Fils. Dans le Nouveau Testament, dans son prologue, Jean atteste que la parole qui était au commencement avec Dieu était en même temps elle-même Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or, Christ est la parole. Paul déclare que le Christ est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Dans Romains 9, verset 5, et qu'avant de venir sur terre, il existait en forme de Dieu, selon Philippiens 2, verset 6, et que la plénitude de la divinité habite corporellement en lui, dans Colossiens 2, verset 9. À la fin de sa première épître, Jean proclame que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Concernant le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 6, verset 16. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Or, il est aussi dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Comme le Fils, le Saint-Esprit peut être identifié à l'Éternel. Paul écrit, Or le Seigneur, c'est l'Esprit, dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Saint-Esprit est donc un être semblable à Jésus-Christ, dont la personnalité ne peut être niée. Jean 14, verset 16, Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'égalité entre les trois personnes n'exclut pas une certaine subordination du Fils par rapport au Père. Dans Jean 6, verset 38, Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ni du Saint-Esprit par rapport au Père et au Fils. Jean 15, verset 26, Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Pour comprendre la Trinité, comparons le Père d'où vient toute chose à la substance du soleil et le Fils, la parole vivante faite chair, à la lumière du soleil. Le Saint-Esprit, celui qui est créé à partir de la parole, serait la chaleur brûlante du soleil. Le mystère de la Trinité nous dépasse, mais comprenons qu'il y a un seul Dieu unique en trois personnes distinctes mais inséparables. Sans vouloir aller au-delà, grâce à l'Écriture et grâce à l'action du Saint-Esprit, il est possible de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et cette connaissance-là nous donne accès à la vie éternelle. Dieu en trois personnes présente des attributs spécifiques. Troisième partie, la création. Petit 1, la création avec la participation des trois entités de Dieu. Dieu est créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui est visible et invisible. Les théologiens ont forgé l'expression « creatio ex nihilo », c'est-à-dire « création à partir de rien ». Cela se justifie car il est écrit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas et que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est apparent. Dans Romains 4, verset 17, Placé en présence de Dieu, Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et dans Hébreux 11, verset 3, Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Les trois personnes de la Trinité ont participé à l'œuvre de la création. Dans la Genèse, il est écrit que toutes choses sont venues à l'existence par le moyen de la parole de Dieu, qui est Jésus. Dieu dit et la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Le Nouveau Testament est encore plus explicite. Dans Hébreux 1, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jean 1, verset 3, Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1, verset 15 et 16, Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le rôle créateur du Saint-Esprit est aussi attesté dans divers passages. Dès le second verset de la Genèse, il est question de lui comme planant au-dessus des eaux. Un croyant peut dire que l'Esprit de Dieu l'a formé. Job 33, verset 4. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Et que les êtres sont créés quand Dieu envoie son Esprit. Dans Psaume 104, verset 30, si tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles l'aspect de la terre. Ainsi l'Esprit accomplit la volonté du Père exprimée par le Fils. Petit 2, la création de l'homme. Petit a, l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à sa ressemblance. Dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il s'agit d'un caractère unique de l'homme appelé à dominer sur toute la création visible. Il ressort dans l'Écriture que cette image divine subsiste en l'homme malgré la chute. Le Seigneur déclare à Noé qu'il réclamera notre sang à tout animal et à tout homme qui pourra le verser. Dans Genèse 9, verset 6, car ajoute-t-il, Dieu a fait l'homme à son image. Tout être humain a une valeur considérable, même s'il n'est pas du nombre des rachetés. Il est toutefois certain que cette image a été gravement altérée par la chute. Petit b, les éléments constitutifs de la nature humaine. Les hommes ont été créés esprit, âme et corps. Ils dominent sur les anges, les animaux et les végétaux. Les anges ont été créés esprit. Les animaux ont été créés âme et corps. Les végétaux ont été créés corps. Avant la chute, l'homme et la femme savaient qu'ils devaient se soumettre aux ordres de l'Éternel et qu'il ne leur était pas permis de transgresser ses interdictions. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé l'homme moralement et spirituellement responsable. Les hommes ont été créés bons et même très bons, et ils n'avaient aucune prédisposition au mal, et par conséquent, n'auraient pas dû succomber à la tentation. Quatrième partie, la chute. Dans la Bible, nous ne trouvons aucune explication sur l'origine du mal, mais elle nous décrit comment il s'est manifesté et qu'il a pour fondement la rébellion contre Dieu. Petit 1, Satan et les démons. Avant qu'Adam et Ève se rendent coupables, le serpent était là. Sous la forme du serpent, un adversaire d'une toute autre dimension était à l'œuvre. Apocalypse 12, verset 9 nous le confirme. Le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Le mot Satan signifie en hébreu adversaire. Il a été traduit dans la version grecque par diabolos, calomniateur, c'est-à-dire calomniateur accusateur. Satan est une créature de Dieu et il n'a pas été créé mauvais. Par son orgueil, cet être céleste, d'une grande beauté, a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Les démons qui l'ont suivi représentent le tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 4, sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur terre. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons quelques allusions plus ou moins claires à ces êtres déchus, comme par exemple dans Genèse 6, versets 2 à 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Le Nouveau Testament est plus explicite. Les démons croient et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Ils peuvent répandre des doctrines pernicieuses. Les religions païennes s'adressent à eux. 1 Corinthiens 10, versets 19 à 21. Cela signifierait-il qu'une viande, après qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Apocalypse 9, verset 20. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Certains sont plus mauvais que d'autres. Luc 11, verset 26. Alors il va chercher cet autre esprit, encore plus méchant que lui, et les ramène avec lui. Cependant, à la croix, Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Colossiens 2, verset 15. Et dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Jésus, par sa victoire sur Satan, peut délivrer ceux qui sont atteints de possessions démoniaques. Luc 11, versets 21 et 22. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Et communiquez ce pouvoir à ses disciples qui agissent en son nom. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Et dans Luc 10, versets 17 à 19. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » « Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Ils agissent dans le nom de Jésus. C'est un signe de la venue du royaume. Dans Luc 11, verset 20, « Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Délivrer quelqu'un au nom de Jésus, c'est le libérer des démons qui le tiennent prisonnier de ses chaînes et le poussent à pécher. C'est expulser ces démons de son corps. Cela se fait avec le consentement de la personne qui, par la foi, accepte de donner son cœur à Jésus et se met sous la protection du sang de Jésus qui a été versé pour lui à la croix pour couvrir ses péchés. Cependant, il y a différents niveaux de délivrance, mais les plus difficiles sont les cas de possession dus en grande partie à la pratique de la divination. C'est une forme de spiritisme ou de l'occultisme en général, car ces choses sont en abomination devant l'Éternel et peuvent entraîner des malédictions. Deutéronome 18, versets 9 à 11. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. L'adversaire de Dieu, Satan, est aussi celui des hommes, surtout celui des croyants. Le livre de Job nous le présente comme les accusant devant l'Éternel. Dans Job 2, versets 1 à 7. A-t-il encore maintenant cette possibilité? Le verset d'Apocalypse 12, verset 10 permet d'en douter. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. En tout cas, cela ne doit pas nous inquiéter car nous avons un avocat. Et si Satan nous accuse en tant que menteur, nous savons que son accusation est fausse à travers le sang de Jésus. Dans Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans Zacharie 3, verset 1 à 10, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, qu'il a définitivement vaincu à la croix. La protection de Jésus est efficace pour ceux qui lui donnent leur vie et lui obéissent, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et dans le sillage de cette victoire, nous pouvons le vaincre à notre tour au nom de Jésus. Petit 2. La chute de l'homme. Le livre de la Genèse nous raconte comment l'homme à son tour est tombé dans le péché en transgressant l'interdit de Dieu qui est de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La ruse du tentateur se manifeste en insinuant le doute à propos de la parole divine. Dans Genèse 3, verset 1, Dieu a-t-il vraiment dit? Il marque déjà un premier point en se faisant écouter. Le tentateur accuse ensuite le Créateur d'avoir énoncé une menace mensongère et de vouloir garder pour lui un privilège. Le tentateur fait également miroiter à la femme des perspectives alléchantes. Vous ne mourrez absolument pas, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dans Genèse 3, versets 4 et 5. Satan a voulu émanciper l'homme et la femme de la tutelle de Dieu, et ceux-ci ont eu l'ambition d'être comme Dieu, en établissant eux-mêmes leur éthique, sans se rendre compte qu'ils devenaient les esclaves de Satan, car en mangeant du fruit défendu, ils communiaient avec lui en acceptant d'être sous sa domination. Il est courant de souligner le rôle de la convoitise qui conduisit Ève dans la chute. Elle a vu que le fruit était bon à manger. Il s'agit de la convoitise de la chair, donc le corps. Agréable à voir, donc c'est la convoitise des yeux, donc l'âme. Précieux pour ouvrir l'intelligence, donc la convoitise de l'orgueil, l'esprit. Il est à noter l'étrange passivité d'Adam, qui est probablement à ses côtés. Il a échappé à sa responsabilité de rappeler à Ève l'interdit de Dieu. Petit 3, conséquences de la chute. Si leur mort physique s'est déclenchée quelques siècles plus tard, leur mort spirituelle s'est déclarée aussitôt. La mort physique fait partie des conséquences du péché. Dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En rupture avec Dieu, l'homme et la femme se sont trouvés en conflit l'un avec l'autre. Quand Dieu vient demander à Adam ce qu'il a fait, Adam accuse Ève de les avoir conduits dans la chute. Une réaction que l'on retrouve dans le récit de la chute, c'est la honte éprouvée par l'homme et la femme en constatant qu'ils étaient nus. La nudité dans la Bible est signe de désolation, d'abandon. Il ne reflète plus la gloire de Dieu. Le travail humain devient pénible et douloureux, parfois infructueux. La femme doit s'attendre à des souffrances, tant dans la maternité que dans la vie conjugale. Si le péché a tout gâté, Dieu demeure miséricordieux. Il couvre la honte de ses créatures en versant le sang des animaux pour les couvrir de peau de bête, et il leur annonce la venue du libérateur qui écrasera la tête du serpent. Dans Romains 5, verset 19, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Cette corruption affecte notre personnalité entière. Dans Romains 8, verset 7, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est incapable. Cependant, l'homme naturel est capable de bons sentiments, de loyauté, de générosité, de dévouement, mais sa nature est mauvaise et fait dire à Paul qu'il n'y a pas un seul juste. L'homme naturel se trouve dans la situation où il ne peut pas s'abstenir de péché. Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La bonté du Seigneur qui cherche l'homme pour le sauver constitue le thème central de l'Écriture tout entière. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Selon le cours, quel est le désir profond de Dieu par rapport à l'homme? Expliquez-vous. Deuxième question. Selon le cours, qui est Dieu dans sa nature constitutionnelle trinitaire? Comment fonctionne-t-il en lui-même sur le plan relationnel et au niveau hiérarchique? Donnez des versets bibliques pour justifier votre réponse. Petit 3, expliquez-moi la constitution humaine, esprit, âme et corps, qui est faite à l'image de Dieu. Justifiez-vous par des versets bibliques. Quatrième question. Selon le cours, comment l'homme a-t-il chuté dans le péché? Expliquez la technique de séduction du serpent dans Genèse 3. Comment fonctionnait l'homme avant la chute, puis après la chute? Expliquez-vous.